Merci d'être venu rencontrer Hugo Bourris ce soir, ici au 91 de la rue Porte-Dijot. Alors on est ravis parce que Hugo Bourris, on le suit depuis longtemps. Il est adoré des libraires du rayon littérature, rien que ça, de tous les libraires sans exception. On le suit depuis le début avec son premier roman « Le baiser dans la nuque » qui est sorti en 2005. On l'a suivi d'autant plus que son deuxième roman était exceptionnel pour nous, « La délégation norvégienne » paru en 2007. Et un troisième roman, « Je n'ai pas dansé depuis longtemps » qui est sorti en 2010. Ouais. C'est ça. Tous les trois sont parus chez Bellefond. Le quatrième aussi, qui s'appelle « Trois grands fauves » que vous venez présenter ce soir. Alors, qui sont ces trois grands fauves? Donc, vous avez choisi de parler de trois personnages historiques, à savoir Danton, Victor Hugo et Winston Churchill. Entre ces trois hommes, apparemment, bon, vous tissez des toiles, vous tissez des points communs. Ils ne sont pas de la même époque. Vous partez de 1759 avec la naissance de Danton. Et le roman se termine à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et avec les dernières années de Winston Churchill. Donc ce soir, nous allons bien sûr parler d'histoire, mais nous allons surtout parler de littérature et comment derrière le portrait de ces trois hommes que vous faites, dressez un lien qui est... entre ces trois portraits, il y a un homme qui se dégage, un quatrième homme, dont vous dressez le portrait dans ce roman. Donc ma première question est très simple. Pourquoi avoir choisi ces trois hommes-là? Quelle affinité avez-vous avec eux?
D'accord. Alors, je vais bien sûr vous répondre, mais bonsoir. Et je voulais dire que j'étais très heureux d'être là à Bordeaux, parce que c'est pas du tout un lieu qui est neutre pour moi, parce que j'ai fait une partie de mes études ici. J'ai fait l'Institut d'études politiques de Bordeaux et la fac art du spectacle en parallèle. Et c'est ici que j'ai commencé à devenir un vrai lecteur, en fait. C'est à Bordeaux, je suis arrivé, j'avais 18 ans. Je sortais d'une hippocagne. Hippocagne, c'est une classe préparatoire littéraire où vous avez des listes de livres non exhaustives de 30 pages à lire. Et j'ai retrouvé à Bordeaux, j'avais un peu plus de temps, et j'ai retrouvé à Bordeaux le goût de la lecture. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et donc, vous imaginez pour moi le plaisir que c'est que de revenir ici sur les lieux de mes... où finalement tout s'est noué quelque part, puisque une nouvelle en a amené une autre, et jusqu'à mon premier roman, Le baiser dans la nuque. Alors, tout est parti pour Trois grands fauves. Trois grands fauves, c'était un livre que j'ai commencé il y a 13 ans, donc ça remonte maintenant. Je préparais un concours d'entrée à l'époque, le concours d'entrée de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Et je prenais des cours du soir, parce que c'est une école plutôt technique et scientifique. Et moi, j'ai une formation littéraire, plutôt. Et je suivais des cours du soir, il était à peu près 7h-ci. C'était des courts tunnels de 3 heures. Et un soir, j'avais pas dîné. Et j'ai eu extrêmement faim. Et j'ai... probablement fait une sorte de malaise hypoglycémique léger, mais en tout cas, j'ai commencé à divaguer. J'espère que ça ne va pas m'arriver ce soir. Et j'ai, dans ma divagation, je me suis demandé quelle serait la plus grande ironie pour quelqu'un qui a faim, et j'ai pensé que c'était d'être en route pour l'échafaud. Je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit, mais d'être sur la charrette des politiques, d'avoir comme perspective le fait d'être guillotiné dans quelques temps, et que d'avoir encore un corps jusqu'au dernier moment, un corps qui est désirant, alors que ça n'a plus de sens, puisque dans quelques instants, la tête va être séparée du tronc. Et c'est seulement ensuite, dans un deuxième temps, que je me suis demandé quel homme politique de la Révolution française pourrait être le dépositaire d'une telle fin, et c'est là que j'ai pensé à Danton. Dont je ne connaissais pas grand-chose, sinon qu'il avait une gueule, et je l'imaginais bien pouvant être un homme d'appétit, ce qu'il est. Et donc j'ai commencé à travailler sur Danton, et je me suis rendu compte qu'il y avait un destin incroyable qui méritait plus qu'une simple nouvelle sur les derniers instants. Et donc j'ai écrit une nouvelle sur Danton, qui m'avait valu à l'époque le prix du jeune écrivain, qui avait été publié au Mercure de France. Et déjà à l'époque, donc il y a 13 ans, j'avais eu envie de lui adjoindre deux autres figures, que sont donc Victor Hugo et Winston Churchill. C'était une manière de traverser le temps, puisque donc l'histoire moderne commence avec la Révolution française. Victor Hugo, donc c'est Danton, Victor Hugo à lui seul embrasse tout le 19e siècle, et Winston Churchill est considéré comme l'homme politique européen le plus populaire du 20e siècle. Et je ne savais pas, c'était purement intuitif, je ne saurais pas vous dire à l'époque pourquoi ces trois-là, mais l'enquête ensuite, puisque donc, j'ai eu le temps de me documenter, ça, c'était il y a 13 ans, a confirmé cette intuition de départ, et effectivement j'ai trouvé beaucoup de points communs, et j'ai été obligé même de soustraire. Il y a beaucoup plus de points communs que ce qu'il y a dans le livre, mais en tout cas il y a en effet un fil rouge qui est le je tresse une forme de cordon ombilical, enfin une filiation imaginaire entre ces trois hommes pour donner vie en effet à un quatrième qui serait le grand homme. Et l'idée c'était de toucher du doigt ce qui fait l'exception de ces trois hommes. Et alors, ils ont en commun quand même d'avoir échappé tous les trois très jeunes à la mort. Alors là où d'autres auraient pu y contracter une forme de sagesse, on sait que ceux qui ont frôlé la mort deviennent plus sages normalement. Eh bien, eux, ça leur arrivait très jeune et c'est l'inverse. Ils y ont probablement puisé une forme de démesure, d'excentricité. Ils se sont crus immortels. Et puis il y a aussi un rapport au père. Je crois que c'est aussi un livre sur la paternité.
Donc le c'est vraiment c'est le fait d'avoir échappé à la mort qui les a rendus comme ça en fait, c'est ça qui les lancés du moins au départ sur la voie de l'immortalité.
Alors chacun a sa réponse. Mais je trouve que ils ont en commun ceci, et probablement que si on me demande de définir ce qu'est un grand homme, je crois qu'ils ont souvent en commun de ne pas avoir peur de la mort. C'est-à-dire que ils la défient, ou en tout cas en apparence. C'est-à-dire que moi qui suis terrorisé par la mort, eux au contraire la regardent droit dans les yeux, la défient sans cesse. Et je suis assez fasciné par ça. Et quand je dis qu'il la défie, c'est pas juste une formule. Enfin, quand on prend par exemple Danton, je suppose que parmi vous certains ont déjà lu le livre, mais il y a cette scène en 1793 où il est envoyé par la Convention pour une mission d'enquête en Belgique. Il reçoit un message de son beau-frère charpentier, il est à la forteresse de Condé. Il lui apprend que Gabrielle, sa femme, est souffrante, qu'elle vient de mettre au monde son quatrième enfant et qu'elle va très mal. Alors lui se jette dans une voiture de poste, rejoint Paris, et quand il arrive, l'appartement est vide, et il apprend que Gabrielle est décédée, des suites de couches. Mais non seulement elle est décédée, mais elle est enterrée déjà, et depuis 7 jours. Et lui ne se résout pas à l'idée de ne jamais la revoir, et en pleine nuit, il fait réveiller le fossoyeur, et il exige de la revoir une dernière fois. Et ça, ses contemporains à Danton ne l'ont pas su. Ils ont mis 6 mois à l'apprendre. Il va déterrer Gabrielle en pleine nuit pour la revoir. Et il fait appeler, il est allé chercher Claude-André Deuzen, le sculpteur des bustes de Mirabeau et Pétion. Et ce sculpteur a la particularité qu'il arrange beaucoup d'être sourd et muet, donc il ne racontera pas ce qu'il aura vu. Et il lui demande de prendre le masque de Gabrielle pour avoir un souvenir. Donc, que ce soit dans son appétit, que ce soit dans ce jeu, enfin, il y a un pas de deux avec la mort tout au long de sa vie, et Victor Hugo, pareil, et Churchill, c'est encore une autre, là, c'est encore autre chose.
C'est ce que vous dites à la fin de justement de ce chapitre-là, pour cette anecdote sur Danton, vous dites il gagne encore, c'est ça, c'est oui. En fait il pourtant ces trois hommes ont des faiblesses, justement, c'est ce que vous essayez de démontrer aussi dans le roman, c'est que ils ont choisi du moins une voie qui est celle voilà de la politique, qui est celle de la littérature, notamment pour Hugo, mais il y a une partie de leur vie finalement qu'ils n'arrivent pas à dominer, peut-être, c'est la relation avec leurs proches, c'est ce qu'ils ont reçu eux aussi de leur père. Et ça, voilà, vous le démontrez très bien aussi, notamment Hugo qui a perdu sa fille, ça le poursuit toute sa vie, et finalement, c'est ce qui n'arrive pas, c'est ce qui lui échappe complètement tout au long de sa vie. C'est ça.
Oui, alors, Victor Hugo, on parle toujours de Léopoldine comme d'une clé qui expliquerait la suite. Je ne suis pas sûr, parce que j'ai l'impression que il survit à tout. C'est-à-dire que évidemment qu'il est très affecté, comment ne le serait-il pas, mais par la suite montré un appétit, une férocité qui montre que c'est dans sa manière d'être, vivre et dans son logiciel, quoi. Enfin, c'est-à-dire que il se régénère comme un foie qu'on s'amuserait à rogner. Enfin, c'est un ogre. En fait, moi, c'est mon angle d'attaque pour Victor Hugo. Et qu'est-ce que fait un ogre? Il mange les enfants. C'est la profession de l'ogre. Et pourquoi il mange les enfants? C'est pour capter leur jeunesse et se faisant devenir immortel. Et quels enfants Victor Hugo avait-il sous la main? Les siens et ses petits-enfants ensuite. Et donc, Léopoldine, c'est vrai, c'est un chapitre, mais Léopoldine aussi, je crois que je ne m'attarde pas beaucoup dans le livre là-dessus, mais elle aussi l'a écrasé d'une certaine façon, par son amour, il l'a étouffé. Les lettres qu'il écrit à Léopoldine, ce sont des lettres d'amour. D'ailleurs, c'est peut-être pas si étonnant que ça qu'elle le fuit un peu. Elle part avec Charles Vacry, elle part au Havre, elle essaie de mettre de la distance peut-être aussi avec son père l'empêche aussi de s'épanouir. Et c'est le cas avec tous ces enfants. On n'arrive pas à se développer dans l'ombre du chêne Hugo. C'est vrai que c'est un portrait à charge pour Victor Hugo qui surprend parfois et qui, on me l'a d'ailleurs parfois reproché, parce que c'est un peu un monument, Victor Hugo, on n'y touche pas forcément, mais enfin, il résiste très bien, il est solide. Victor Hugo, ce n'est pas que le déjeuner des pauvres et Guernesey. Ce n'est pas que l'art d'être grand-père. Il y a d'autres facettes de Victor Hugo qui sont moins agréables à regarder. L'enfant qui m'émeut le plus, c'est Charles Hugo, c'est son fils aîné. Qui lui écrit lui aussi et qui n'arrive pas évidemment à arriver à la cheville de son père. Et Charles Hugo, à un moment donné à Paris, s'éprend d'une actrice des variétés, Alice Ozy, et lui écrit des vers et parvient à la séduire. Et il va demander à son père au moins le droit de porter des habits propres, de blanchir son linge, d'avoir au moins une chemise propre par jour. Parce que lui, il porte en seconde main, en fait, les habits de son père. Et là, il aimerait bien être bien mis, et Victor Hugo refuse. Bon. Et puis donc, Charles insiste un peu, et Victor Hugo finit par dire « D'accord, mais alors à condition de renoncer à ta côtelette quotidienne. » C'est-à-dire qu'il faut renoncer à ta viande quotidienne, à ta part de viande quotidienne pour... Et puis, à une soirée chez Théophile Gautier à Paris, Victor Hugo se retrouve assis à côté d'Alice Ozy. Évidemment, le petit marché sordide a circulé dans Paris, il sait bien qu'il n'a plus le droit de manger sa côtelette. Et elle lui dit ce que c'est que cette histoire. Et donc lui, d'être à côté d'elle, se prend le désir d'essayer pour voir s'il serait capable lui aussi de la séduire. Et lui qui a tout Paris à ses pieds, qui a eu d'innombrables conquêtes, qu'avait-il besoin d'aller séduire la maîtresse de son fils? Et il la lui vole. Évidemment, on ne résiste pas à Victor Hugo, peut-être. Et quand Charles Hugo l'apprend, lui est beaucoup plus adulte que son père, pour le coup, et se retire de la relation. Il dit, si c'est comme ça, moi, je... Bon. Et malgré cela, il le suit en exil comme un toutou, j'ai envie de dire. Enfin, il n'a pas beaucoup de choix. Il vit à ses dépens, à ses crochets. Et donc voilà, Victor Hugo, c'est ça aussi. C'est...
Oui, c'est à la fois, c'est ce que vous, c'est ce que, voilà, ce que vous démontrez, c'est sous l'appellation de fauve d'ailleurs. Pourquoi aussi ce nom-là? Est-ce que vous l'avez trouvé?
C'est un dévoreur de femmes, d'enfants, même au premier sens du terme, il mange énormément. Danton avait de l'appétit, bon, on le sait, mais Victor Hugo, à 80 ans, il est encore capable d'exploser un noyau d'abricot entre ses dents, enfin, de pêche bien sûr, mais c'est plus facile, mais à l'abricot quand même. Non, il avait ce jeu, on le sait, de rassembler, il faisait beaucoup rire ses petits-enfants avec ça, de rassembler sur la table les restes du repas, viande et poissons mélangés, et de détailler ça dans son assiette, il appelait ça le gribouillis, et puis renverser la salière et la poivrière dessus, et puis manger ça. Il était... Alors Churchill, c'est différent. La réponse, lui, pour Churchill, est différente. C'est-à-dire que Churchill, j'ai l'impression, moi, qu'il est mort de son vivant. Que c'est sa clé pour l'immortalité, justement. C'est que, en fait, il ne meurt pas. D'ailleurs, il va mourir très, très âgé, à 92 ans. Lui qui pensait mourir à la quarantaine, comme ses frères, comme son père. Comme ses frères, oui, comme ses oncles. Et non, il dure. Et peut-être, enfin, c'est ce que je m'amuse à démontrer, c'est que en fait, il est déjà mort effectivement, Churchill. Lui, peut-être aurait aimé être le fils de Victor Hugo parce qu'il se l'imaginait comme un bon père, alors que son propre père à lui était terrible à écraser. Le méprisait profondément, lui renvoyait ses lettres en lui disant tu réviseras ton style d'écolier attardé, lui qui aura le prix Nobel de littérature un peu plus tard. Et j'ai l'impression que Churchill, toute sa vie, a guetté un signe d'affection d'un père qui n'est jamais venu, et que c'est quand même vraiment une clé de compréhension de son ardeur bon, d'abord il était profondément dépressif, dès que sa vie ralentissait un tout petit peu il prenait peur, et cette obsession du père elle court jusqu'à son dernier moment. Churchill, il meurt à 92 ans, il meurt au bout de 14 jours de coma. C'est quelqu'un qui a proposé à la mort des rendez-vous tout au long de sa vie. Il a eu plusieurs accidents de voiture, plusieurs accidents d'avion. Il a eu, je crois, plusieurs AVC. Il a été au front en 1915. Les balles ne le trouvaient pas. Il a sauvé un train en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers. Pareil, les balles ne le trouvaient pas. Et il a lutté toute sa vie. Et au moment de mourir, à 92 ans, il a continué de lutter. Il a été 14 jours dans le coma. Londres défilait à son chevet, et donc les hommes politiques, ses proches, se disaient à chaque fois, on va le voir, on le voit pour la dernière fois. Et il ne mourait pas. Ça devenait insupportable, il fallait qu'on revienne, un petit peu comme Nelson Mandela, on n'en peut plus. Bon. On revient. Bon. Donc ça a duré 14 jours, et qu'est-ce que Winston Churchill attendait? Il attendait l'anniversaire. Il attendait quel anniversaire? Dans son coma, il attendait l'anniversaire de la mort de son père. Il est mort 70 ans, mois pour mois, jour pour jour, heure pour heure, après la mort de son père. C'est quand même... Voilà, il est... Ça, c'est, voilà.
C'est ça, c'est... En fait, on se pose la question, est-ce qu'on peut mourir de désamour, quoi? C'est ça, un petit peu. C'est le désamour, c'est vraiment un thème qui est récurrent, que ça soit donc voilà, l'omniprésence du père, comme vous disiez si bien, et puis l'incapacité à donner de l'amour aussi à leurs enfants. C'est un thème que vous développez beaucoup aussi. Je pense à Adèle, la fille de Victor Hugo notamment.
Et même Churchill, j'ai pas beaucoup développé cet aspect-là, mais ça n'a pas été un père, à mon avis, extraordinaire. Mais oui, vous avez raison. C'est le mais c'est aussi, c'est une autre question que j'ai sur les grands hommes en général, mais même aujourd'hui, contemporains. Ce besoin qu'on peut avoir d'être applaudi par une foule, d'être adulé par une foule, d'être aimé, d'être toujours en représentation, quand on est soi-même incapable d'aimer une femme ou un fils ou d'en être aimé. Enfin, c'est,
Parce que finalement, c'est ça, c'est que voilà. Eux, ils ont plus ou moins réussi à surpasser le désamour qu'ils ont vécu et vous dressez aussi en parallèle des portraits de, notamment de leurs enfants qui subissent un échec finalement, qui eux-mêmes sont morts symboliquement parce qu'ils n'ont pas été, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été aimés.
Oui,
par, voilà,
pour les enfants de Victor Hugo, complètement. Oui. Bah oui, c'est on a aussi François Victor, le plus méconnu des enfants de Victor Hugo, qui a pourtant traduit Shakespeare. C'est une traduction qui d'ailleurs vaut toujours, fait toujours autorité aujourd'hui. Et qui dépérit à ses côtés sans que Victor Hugo ne lui prête réellement attention.
Et la mort aussi, la mort, elle est aussi dépeinte dans ce que vous dites, vous revenez sur l'épisode du spiritisme, enfin des tables. Des tables mouvantes.
Oui, oui, c'est ça. Ça. Oui.
Pourquoi vous êtes revenu en particulier sur cet épisode d'ailleurs ?
Alors, c'était pour justement éclairer la personnalité de Charles, parce que donc vous savez que Victor Hugo, dans une période de sa vie, a fait du spiritisme. Il a fait parler les tables. Il était à Jersey pendant son exil, avant d'aller à Guernesey. Et à Jersey, il reçoit, le clan Hugo reçoit une amie fidèle, Delphine de Girardin, qui leur dit que la mode à Paris en ce moment, tout le monde s'y met, c'est une mode venue d'Amérique, c'est de faire tourner les tables. Et Victor Hugo, au début, ne prend pas ça, évidemment, ça à la légère, d'autant que même l'empereur s'y est mis, donc je suis pas sûr que ça l'ait beaucoup encouragé à s'y intéresser aussi. Et bon, finalement, il veut bien se prêter au jeu, et en effet, il semble que l'esprit de Léopoldine soit ressenti par tous les convives ce soir-là, et ça devient une lubie, une drogue infernale. Ils font ça jusqu'à 9 heures d'affilée. Ils commencent même parfois le matin. Ils s'ennuient en même temps à Jersey. Mais donc, à tour de rôle, ils sont là, ils font tourner les tables. Et ça dure longtemps, cette histoire. Hein. Ça dure des mois. Et ils font venir du bon monde. Alors, il y a Jésus-Christ, Mahomet, il y a le masque de fer, Jeanne d'Arc. Il y a beaucoup de monde qui vient. Marat. Et justement, alors là, voilà, donc là c'est le cadeau du ciel quand on se documente. Je me procure à la maison de Victor Hugo les comptes rendus des tables. Parce que il y en a des volumes entiers. Bon. Et Victor Hugo aimait beaucoup, lui, être le scripteur. Parce que c'est donc, c'était ABCD, donc il y avait un nombre de coups par lettre. C'était infernal, il fallait compter le nombre de coups pour savoir quelle lettre avait été écrite, mais il n'y avait pas de ponctuation. Donc il fallait, dans la succession des lettres, déchiffrer du sens, faire des espaces, etc. Et donc Victor Hugo, lui, aimait bien ça, aimait être celui à côté qui prend des notes. Et un soir, l'esprit de Marat est convoqué et il dit à Victor Hugo, mais ça, ce n'est pas une invention de ma part, dans les comptes rendus, il dit, si tu avais vécu sous la première révolution, la révolution française, tu aurais été Danton. Donc moi, évidemment, j'ai deux anges de lire ça, puisque c'est une filiation entre eux. Mais je me suis servi de ça pour parler de Charles, parce qu'en fait, Charles, qui est mou, qui d'ailleurs, Victor Hugo ne le supporte pas de l'avoir dans les parages, parce qu'il est désœuvré, il passe ses journées à boire de la bière au bar avec François Victor, au bar de Saint-Hélier, et à jouer au nain jaune. Et il se trouve qu'il a, semble-t-il, du fluide, parce que quand il est présent et quand il est le médium, la table répond et les séances de spiritisme se passent bien. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que probablement le père a été abusé par Charles Hugo. qui lui-même était quand même poète, était capable d'inventer des vers, de les écrire. Et on peut supposer que peut-être Charles, pour la première fois, trouvait dans le regard de son père une admiration, enfin, il servait à quelque chose, et pour continuer à être comme ça, gratifié dans le regard de Victor Hugo, gratifié par le regard de son père, a fait venir à la table, a convoqué à la table tous ces personnages illustres. Donc ce serait l'une des clés d'explication de ces séances de table à Jersey.
D'accord. Je voulais revenir sur le terme de fauve. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il faut être un fauve pour vraiment marquer son époque, marquer son temps, comme ces trois hommes l'ont marqué ?
Malheureusement, après tout dépend ce qu'on met sous faux, parce que c'est vrai qu'évidemment c'est une notion vague, mais malheureusement que ce soit dans où c'est très rare, j'ai l'impression qu'on atteigne des postes de responsabilité sans un certain un appétit plus ou moins immoral parfois. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Parce qu'ils ont marqué leur temps aussi par le langage. C'est aussi, j'imagine, ah oui, pour ça, qu'ils vous ont plu, ces trois hommes aussi.
Oh, oui,
vous
avez c'est des hommes de lettres aussi.
Des hommes de lettres aussi par leur discours. Ils ont marqué leur temps par leur discours. Et oui, d'ailleurs, c'est aussi par des mots qui sont eux-mêmes qui sont tués, enfin qu'ils sont. Je pense à la lettre du père de Churchill, notamment.
Oui, c'est juste que vous dites. Et je pense pas à Danton aussi, parce qu'il perd son procès probablement au moment où il perd la voix. En fait, il n'arrive plus à se défendre. Probablement que son il aurait. Il aurait été guillotiné quand même. Mais peut-être qu'il était capable de retourner des foules, donc il aurait peut-être mis plus de chances de son côté. Mais je crois que jusqu'au dernier moment, il a pensé qu'il allait se passer quelque chose. Quand on se croit immortel, on se croit jusqu'au bout. Je pense qu'il pensait qu'on allait arrêter la charrette, la renverser. Enfin, peut-être il peut l'avoir pensé.
Vous parlez aussi de l'appétit sexuel des trois fauves.
Surtout les deux premiers, parce que Churchill disait que l'oiseau n'est pas beaucoup sur du nid.
Voilà. Donc quel rapport ils entretiennent avec leur sexualité ces trois personnages. Comment vous exploitez ce thème-là?
Bon, chez Danton comme chez Hugo, ça obéit au même appétit. On sait que, d'ailleurs, c'est une citation en exergue de Victor Hugo. Étymologiquement, dans beaucoup de langues, manger et faire l'amour, c'est la même racine. Ils ont Victor Hugo. On le sait, il a la sexualité d'un grand bourgeois du 19e siècle. Je ne veux pas faire d'anachronisme et mais voilà, ça obéit à sa logique on sait que les jeux de pouvoir et sont étroitement liés avec l'appétit sexuel. Avec Victor Hugo, il y a un avantage, c'est que ça se double d'un certain style. Il a un certain goût littéraire, même dans les choses du sexe, puisqu'il tient ces fameux cahiers qu'on a su déchiffrer aujourd'hui, où il tient le compte, la comptabilité de ses conquêtes. Pour ne pas être compris de quiconque, il écrit dans un pidgin catalan, latin. Et donc, et puis il y a des images assez littéraires pour décrire ces agissements. Alors quand il a vu la poitrine d'une servante, il écrit « Les Suisses, 50 centimes ». Les Suisses, ça lui évoquait le lait. Bon. Et puis quand c'est une femme qui a perdu sa virginité avec lui, il écrit qu'il a débusqué l'ermite de la chaussée d'Antin. C'est une manière de faire aussi.
Et Churchill, donc ?
Alors, Churchill, oui, non, là, c'est pour le coup, il a mis son énergie ailleurs.
C'est là où on peut parler du rapport entre finalement la sexualité et l'écriture aussi.
Oui, alors c'est un chapitre.
Voilà, on peut le lire d'ailleurs.
Vous m'emmenez sur un terrain délicat.
C'est fini après.
Ouais. Parce qu'en effet, il y a tout un chapitre où Victor Hugo chez François Victor à Auteuil discute avec Edmond de Goncourt. Et il parle des différents grands auteurs du 19e siècle qui expliquent que l'écriture est incompatible avec la chose sexuelle. C'est-à-dire qu'ils perdent leur énergie. Dans ce cas-là, ils sont incapables d'écrire après avoir fait l'amour.
On peut lire peut-être le passage.
Ah, bah, je vous en prie.
Bah, allez-y. Hein.
Allez-y, ah ben non.
Très bien. Le lendemain d'un épanchement conjugal, c'est Edmond de Goncourt qui dit ça, Zola ne s'assoit même pas à sa table, sachant d'avance qu'il lui sera proprement impossible de construire une phrase, d'écrire une ligne. Et Balzac, quelle économie dans la dépense de son sperme. Comme quoi... je voulais revenir à vos autres romans, enfin du moins où vous puisez votre inspiration, parce qu'il faut dire quand même que vos quatre romans sont radicalement différents. Comment vous avez où vous puisez votre inspiration et du moins comment vous travaillez. Donc on sait celui-là, vous l'avez depuis un petit moment derrière la tête. Mais est-ce que vous avez la sensation finalement que vous pouvez écrire à partir de n'importe quel sujet qui vous passionne et n'importe quel thème et n'importe quel genre aussi, n'importe quel.
Alors vous avez raison de préciser qui vous passionne parce que.
Oui, bien sûr.
Parce que là par exemple je réfléchis au thème du prochain. Il y a des idées qui ne germent pas ou dont je sens qu'elles vont me lasser. Et c'est une course de fond, puisque c'est celui-ci, j'ai commencé il y a 13 ans. Les autres, c'était 3-4 ans de travail à chaque fois. Donc c'est vrai que le choix du sujet est important. Alors, c'est souvent le désir de raconter une scène dont je n'ai pas lancé depuis longtemps, c'était le retour d'Ivan sur la Terre. Là, c'était la scène de Danton, donc sur la charrette en route pour l'échafaud. Et c'est à partir de là commence une enquête. Moi, l'enquête procède de ma démarche d'écriture, c'est que avant même d'écrire une ligne, je me documente pendant au moins un an et parfois plus. Et cette enquête me nourrit énormément. Et cette enquête n'est pas qu'une enquête technique ou factuelle sur ce qui aurait pu arriver à un tel ou un tel. C'est aussi une enquête littéraire. C'est-à-dire que je travaille sur un champ lexical, puisque des sages-femmes dans le musée dans la nuque ne s'expriment pas de la même façon que des chasseurs dans les galaxies norvégiennes ou que des cosmonautes russes, soviétiques. Je n'ai pensé plus longtemps. Donc voilà, c'en est même à me demander si parfois c'est pas le si écrire n'est pas un prétexte pour enquêter, parce que voilà, moi j'ai qu'une vie et là ça me permet d'en avoir plusieurs, enfin de d'explorer des métiers que je ne ferai jamais. Et puis il y a aussi une part de jeu et de défis, parce que Après le baiser dans la nuque, qui était donc plutôt une histoire d'amour avec la rencontre entre une sage-femme et un pianiste, j'ai réellement cassé le schéma, parce que c'était plutôt du suspense psychologique, c'était des chasseurs, et ça parfois surpris, mais au moins je savais que, du coup, j'achetais ma liberté avec ce livre, c'est que je pouvais justement explorer d'autres domaines. Et la question qu'on m'a toujours posée, c'était infernal, parce que, vous savez, on est quand même à l'ère de l'autofiction, alors même si les choses changent petit à petit, mais on me demandait systématiquement, pour le baiser dans la nuque, dans les rencontres, est-ce que votre mère est sage-femme ? Est-ce que vous êtes pianiste vous-même ? Donc, je répondais non. Et puis, on me la posait systématiquement. Et ça devenait même embarrassant. Donc, au bout d'un moment, je me souviens très bien, c'était à Chambéry, une rencontre, c'est comme ici, et on me repose la question. Et j'ai craqué, j'ai dit, bah oui, en fait, j'ai écrit Baiser dans la nuque parce que ma mère est sage-femme et mon père est pianiste. Et là, j'entends un soupir de soulagement. Tout était logique, tout rentrait dans l'ordre. Voilà. Je prends aussitôt en faux, dire, vous voyez bien que c'est ce que vous vouliez, non. Et donc, la délégation norvégienne, ça n'a pas manqué. On m'a demandé si j'étais chasseur. Je ne suis pas chasseur, même si ça ne m'a pas empêché d'être rabatteur pour écrire le livre. Et puis après, je me suis dit, je vais écrire un livre sur des cosmonautes. Sur un cosmonaute à bord de la station Mir dans les années 90, personne n'osera me demander là. Et puis j'ai pas pu y mettre les pieds. Et ben ça n'a pas manqué. On m'a demandé deux fois si j'avais été si j'étais astronaute moi-même. Donc comme quoi, il y en a qui ne doutent de rien. Et là c'est bon. On m'a pas embêté là.
Là on vous a demandé quand même. J'imagine déjà le travail que vous aviez fait aussi pour arriver à écrire ce roman. Les lectures que vous avez faites. Vous avez Bon, pas tout lu, j'imagine, parce que c'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Notamment alors, sur Victor Hugo, alors là, c'est l'exemple type, dont on a beaucoup écrit, pas autant que sur Victor Hugo et Winston Churchill. Mais Victor Hugo, le biographe le célèbre de Victor Hugo, Jean-Marc Ovas, qui a publié une biographie qui fait plusieurs milliers de pages, qu'on ne peut pas lire, en fait. C'est la vie de Victor Hugo jour par jour. D'ailleurs, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus qui il est. Bon. Il a calculé qu'il faudrait 10 ans à un chercheur à la Bibliothèque nationale de France, à raison de 14 heures par jour, du lundi au dimanche, pour lire tout ce que Victor Hugo a écrit dans sa vie. Et il a calculé, mais c'était déjà il y a 10 ans, à mon avis, ça a encore augmenté, qu'il faudrait 20 ans à un chercheur, toujours à raison de 14 heures par jour, tous les jours, pour lire tout ce qui a été écrit sur Victor Hugo. Voilà, donc il y a de la matière, pas de problème.
On peut peut-être lire un passage.
Donc l'enfance de Churchill. Il a
depuis le début aussi.
Oh non, ça va être trop long. Mais il est tout jeune et il vit dans un manoir de 300 pièces. Il voit très peu ses parents et il a une magnifique collection de soldats de plomb, puisqu'il paraît qu'il en avait 3000. Et il s'amusait déjà à jouer à la guerre. Et tout à coup, dans la nurserie où il a placé tous ces soldats de plomb, entre son père. Son père qu'il voit très rarement, donc c'est pour lui un événement. Et son père s'intéresse et lui demande « Veux-tu que je passe en revue tes troupes ?» Le garçon hoche la tête avec énergie. Jamais son père ne lui a fait pareille proposition. Il se rue sur ses soldats, les replace comme des pions, rassemble les cavaliers en escadron, les fantassins en bataillon, reconstitue hâtivement un front de bandière. « Tu y es ?» Son père recule d'un pas pour élargir sa vision, puis s'agenouille pour inspecter le dessin miniaturé de chaque costume, fin de vérifier un à un les boutons à collet jonquille, les shakos tronconiques, les épaulettes écarlates, les pantalons garance, les guêtres blanches. Son fils se tient sur ses gardes, debout sur le côté, se frottant les cuisses de haut en bas. Que va-t-il penser ? Heureusement, son père ne s'offusque pas du pêle-mêle anachronique des uniformes. Des chasseurs en peau de mouton festonnés de dents de loup côtoient des cavaliers mamelouks à cimeters et à turbans. De nombreux soldats semblent avoir été exfiltrés d'une guerre pour être jetés dans une autre, comme si Bonaparte menait ensemble campagne d'Italie, d'Égypte et de Russie. Le garçon n'a jamais vu son père si patient. L'homme semble même s'amuser, puisqu'il sourit en poussant du doigt la terrasse d'un soldat pour l'aligner dans sa rangée. L'enfant se sent vivre dans ce regard, en silence, se vautre dedans. Où est ta masse de manœuvre ? Il ne sait pas ce que c'est. Les troupes que tu gardes en réserve pour... Peu importe. Lord Randolph se laisse distraire par l'alignement des pièces d'artillerie, des véhicules hippomobiles, des fourragères, du matériel du génie, des haquets à chevalet et à bateau, par la longue file des chevaux haut le pied en arrière des troupes. « Est-ce que tu aimerais entrer dans l'armée ?» Il tourne vers le garçon son visage de viveur fatigué. Le dernier mot pèse davantage que les autres. L'enfant l'a soupesé à l'oreille. Il l'entend à la façon qu'a le silence de s'élargir autour de lui. Après son départ, la chaleur de sa présence continue de l'entourer. Alors vraiment, il a réussi à l'étonner avec ses figurines de plomb ? Il ne sait pas quand son père lui reparlera. Peut-être devra-t-il vivre des mois sur cette minute. Il ne l'apprendra que des années plus tard, si Lord Randolph a hasardé cette proposition, ce qui le trouvait trop bête pour devenir avocat.
Voilà. On va finir là-dessus. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.